Bonjour, nous allons donc reprendre pour la conférence conclusive. Et c'est Stéphanie Kuhner qui va donc introduire et animer cette séance et donc introduire la conférence de Jackie Stacey. Merci.
C'est un honneur pour moi que d'introduire Jackie Stacey. Alors je vais présenter brièvement le parcours de Jackie Stacey et puis peut-être pointer des liens de résonance, des liens de convergence et des moments de résonance entre son intervention et ce qui s'est dit depuis deux jours, depuis hier matin. Donc Jackie, vous êtes professeur en Media et Cultural Studies. Votre parcours est pluridisciplinaire. Vous avez d'abord fait une licence en European Studies, puis un master en Women's Studies et ensuite une thèse de doctorat entre 1985 et 1992 au Centre d'études culturelles de Birmingham. Alors je parle de pluridisciplinarité, mais en fait on sait que le découpage entre studies et disciplines n'est pas exactement le même. Donc vous convoquez une pluralité d'approches en termes de studies, tout en ayant navigué entre un département de sociologie et un département d'études littéraires maintenant. Donc peut-être qu'on pourra évoquer justement cette question des studies et disciplines qui se pose en France, mais aussi dans le contexte britannique. Vous êtes auteur avec Sarah Franklin et Celia Lurie en 1990 du deuxième ouvrage féministe historique du CCCS, donc du Centre d'études culturelles de Birmingham, qui s'appelle Off Center, Feminism and Cultural Studies. Vous avez travaillé notamment sur les publics féminins du cinéma, par exemple sur l'identification des spectatrices avec les stars hollywoodiennes, ce qui a donné lieu à, entre autres, à un ouvrage paru en 1994, Stargazing, Female Spectators and Hollywood Cinema. Alors je ne vais pas citer tous vos livres parce que vous avez beaucoup publié, mais je vais revenir sur ceux qui traitent spécifiquement des approches féministes et queer au sein des cultural studies. Donc ce travail sur les spectatrices du cinéma hollywoodien, il va de pair avec un travail sur les méthodes et approches de l'analyse filmique. Donc vous êtes l'auteur de Screen Histories, The Screen Reader, avec Annette Kuhn, en 1998, et de Queer Screens, avec Sarah Street, en 2007. Donc vous êtes une spécialiste du queer cinéma, matière que vous enseignez d'ailleurs en tant que votre spécialité à l'Université de Manchester. Vous enseignez donc aussi les analyses féministes et queer du cinéma, de la politique et de la culture, et vous êtes coéditrice depuis 25 ans de la revue Screen. Vous avez pendant 7 ans coédité la revue Feminist Theory. Je le mentionne parce que c'est une partie importante de votre travail, même s'il n'en sera pas question ici. Vous avez travaillé sur les imaginaires de la génétique dans le cinéma de science-fiction et sur les narrations du cancer, ce qui a donné lieu notamment, entre autres publications, à l'ouvrage Teratology, The Cultural Study of Cancer, paru en 1997, et à l'ouvrage The Cinematic Life of the Gene, en 2010. Et vous vous intéressez ainsi aux constructions sexuées et racisées de la génétique dans les cultures populaires, et notamment cinématographiques. Alors je vais maintenant un petit peu spoiler votre intervention, parce qu'on parlait de spoiler dans la table ronde précédente, dans le panel précédent. Je vais donner les grandes lignes de l'intervention, mais je ne vais pas spoiler le contenu des chapitres, en fait. Donc votre intervention, elle va porter sur le dialogue et la conversation en cours et conversation inachevée entre le féminisme et les cultural studies. Et vous vous demandez notamment comment construire une histoire, comment construire des narrations du centre de Birmingham sans pour autant se réclamer de l'ensemble du champ des cultural studies. Alors il y a ce moment clé, l'école de Birmingham, où vous avez écrit votre thèse. Vous êtes arrivé après le départ de Stuart Hall et ce centre était déjà mythique, c'était très difficile. Vous m'avez raconté que c'était très difficile d'intégrer ce centre, d'obtenir des financements pour faire sa thèse au sein du centre de Birmingham. Et en ce moment, se mène un travail d'archives et de narration de l'époque Birmingham. Et donc c'est la construction, la reconstruction a posteriori de ce moment comme un moment historique. Et vous vous demandez comment est-ce qu'on peut parler des cultural studies de Birmingham sans pour autant réduire cela à un objet de savoir bien propre et bien net, et sans pour autant le transformer en une catégorie homogène, en un objet épistémologique cohérent et transparent. Donc vous allez nous parler de l'imaginaire du champ scientifique des cultural studies en relation avec le féminisme qui est intervenu dans l'imaginaire du champ et les approches queer, les savoirs queer. Et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que vous pointez, et ça fait écho à la conférence d'ouverture de Gregor MacLennan, vous pointez que les chercheurs du centre de Birmingham sont des sujets mus par un désir de justice sociale. Et vous, comme la conférence d'ouverture, allez nous parler des relations entre la recherche, l'action sociale et la création artistique. Et c'est quelque chose qui a été pointé en fait dans la conférence d'ouverture et dans d'autres interventions qu'on a eues depuis hier matin. Donc l'importance du lien entre la recherche, la création et l'action sociale. Je repense à la conférence d'ouverture de Gregor MacLennan où il pointait le pouvoir d'interpellation de Stuart Hall à travers le fait que des types de personnes très différentes, des éducateurs, des artistes, des acteurs sociaux et pas que des universitaires se sont saisis de son travail. On va voir dans votre intervention que vous nous montrez comment certaines œuvres en fait sont une incorporation des travaux de Hall. On y retrouve la figure de Hall comme médiateur, figure qu'a évoquée Gregor MacLennan dans la conférence d'ouverture. Et on reboucle sur la question du marxisme. Pourquoi ? Parce que ce que nous expliquait Gregor MacLennan en conférence d'ouverture, c'est que on ne devient pas un médiateur pluraliste sans une bottom line. Si on se contente de d'écrire, synthétiser, montrer les points communs entre différentes approches, différentes disciplines, et qu'on n'a pas une bottom line, un fil rouge, eh bien on ne produit pas une pensée nouvelle. Alors là, je synthétise ce que nous a raconté Gregor, qui était beaucoup plus complexe que ce que je vous dis là, mais il nous montrait dans sa conférence d'ouverture que la pensée de Hall est féconde parce qu'elle ne fait pas que d'écrire, synthétiser, elle produit quelque chose, et elle le produit parce qu'elle a une bottom line. Il y a un centre, il y a en tout cas un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est la façon dont il convoque le marxisme. Sa relation qui est très ambivalente avec le marxisme, certes, mais c'est son fil rouge. Du coup, le fait de convoquer la question du marxisme, de ses critiques au sein des cultural studies, des façons dont il a été retravaillé, elle est toujours d'actualité. Et elle se pose apparemment aujourd'hui en Angleterre. C'est une discussion qu'on a eue ce midi, notamment à travers la catégorie et le terme de classe, qui aujourd'hui est débattu. Est-ce qu'il peut encore être mobilisé de façon non essentialiste dans l'économie néolibérale, dans le cadre de cette transformation qu'a connue le capitalisme. Cette question de la mobilisation des cadres d'analyse marxiste, elle a été un fil rouge, évidemment, tout au long de ces deux jours. Je vais juste citer deux interventions qui vont dans le même sens que ce que va nous proposer là Jackie Stacey. C'était l'intervention de Kylie Jarrett, Marx is not the only fruit, qui nous a montré que lorsqu'on s'intéresse aux médias digitaux, digital media aujourd'hui, et à l'aliénation à travers les médias digitaux, on est obligé de croiser le féminisme avec les approches marxistes et de convoquer non pas le marxisme à la papa, c'est une traduction assez libre que je fais de son propos, mais un marxisme reconfiguré par l'analyse féministe. Et il a ensuite été question, dans l'intervention de Beverly Skeggs, aujourd'hui, des effacements et des résurgences des théories marxistes au sein des cultural studies et de la disparition du terme de classe au profit d'analyses centrées sur la lifestyle consumption. Alors consommation comme style de vie, je pense qu'il y a plusieurs traductions possibles. Et elle a insisté sur le fait qu'on assiste à un retour aux analyses marxistes, mais que c'est un marxisme reconfiguré. Je vais peut-être laisser la place à votre intervention, Jackie. Et je reviendrai avec des questions, notamment sur la façon dont vous allez, en conclusion de votre texte, nous montrer comment les savoirs issus des expériences queer travaillent, reconfigurent l'imaginaire conceptuel des cultural studies après qu'il ait déjà été travaillé par le féminisme, et comment aujourd'hui ça retravaille en retour les approches marxistes. Voilà.
Merci beaucoup. C'est une expérience assez intéressante pour moi d'être introduite sans comprendre ce qu'on dit de moi. Bon, je souris poliment, mais j'ai juste compris les titres de mes ouvrages. Bon, c'est déjà pas mal.
Merci.
Mais merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravi d'être invité, de faire partie de ce dialogue. Et je remercie les deux Maximes, voilà, ça suffira. Merci à vous deux pour cette belle invitation et l'aide pour m'avoir fait venir ici, la logistique. Les cultural studies, le marxisme, le féminisme, c'est des grosses catégories avec de nombreuses affirmations contradictoires. Chacune a une histoire longue et contestée. Un des problèmes avec le fait de débattre ces grosses catégories, je crois, c'est la tentation de donner une cohérence unifiante afin de les maintenir stables et de les débattre historiquement, d'en débattre historiquement, théoriquement, ou les deux à la fois. Comme le dit Claire Hemmings dans Why Stories Matter, il y a une grammaire politique dans le storytelling féministe. Lorsqu'on réfléchit sur l'histoire du féminisme, dit-elle, les narrations de progrès, de perte et de retour nous racontent souvent des histoires qui, d'une certaine manière, renforcent à un niveau épistémologique le conservatisme qu'on cherche à défier à l'échelle politique. Il y a aussi le risque que les comptes rendus généralisants de ces éléments peuvent réifier ou les fétichiser comme si leur signification pouvait être évaluée en dehors de leur contexte de production. Ou inversement, il y a un risque dans le fait de faire des narrations de leur signification historique qui pourrait suggérer qu'on pourrait les capturer comme des objets cohérents de connaissances qui n'appartiennent qu'au passé. Mon propre contexte pour parler des cultural studies émerge à partir d'une période entre 1985 et 1992 comme étudiante dans le CCCS à Birmingham, donc le Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, le CCCS, ou bon, le centre, le CCCS. J'ai travaillé dans d'autres contextes. C'est pourtant cette expérience qui a formé ma conceptualisation des cultural studies et qui continue probablement à informer mon orientation intellectuelle et politique aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de narrations rétrospectives de l'histoire du CCCS ces dernières années, notamment à travers les projets de recherche qui sont financés, qui cherchaient à archiver le travail du sang dont on a parlé hier dans le travail de Kieran. Et aussi à cause de là, des morts et donc des commémorations en 2014 de deux des fondateurs de Cultural Studies, Richard Hogarth et Stuart Hall. La même année qu'on avait organisé la conférence pour les 50 ans des Cultural Studies à Birmingham, qui était organisée donc par le projet de recherche qui archivait les archives du centre. La question, c'était comment commémorer, archiver et réfléchir sur le centre de Birmingham sans imposer toute une proposition sur l'ensemble du champ ou sans fixer les études culturelles comme quelque chose qui ne m'appartiendrait qu'au passé. Ces deux mouvements, je crois, seraient vraiment contre les désirs qui présidait à la fondation du champ. Dans cette période récente de réexamination du travail du centre, il y a un sentiment pour les gens qui ont travaillé et étudié là-bas d'être historicisés. On fait de l'histoire de nous, comme le dit Charlotte Brunson, lorsqu'elle parlait notamment de son expérience dans la conférence pour les 50 ans des Cultural Studies. Son article, qui peut être lu dans la revue Cultural Studies, le premier numéro de 2015, et je vous invite à le lire. Donc, en écrivant cette plénière de clôture, je continue à me dire, comment puis-je être sûr que je ne vais pas abstraire les termes de cette conférence de leurs histoires, ni les situer seulement dans l'histoire, en les nommant comme n'appartenant qu'à l'histoire, comme s'ils ne pouvaient pas, par exemple, faire partie de notre de débat futur ou d'éléments intellectuels de le paysage intellectuel actuel. Je voulais pouvoir aujourd'hui vous parler à partir d'un cadre épistémologique informé par ce que j'ai appris à Birmingham, sans pour autant privilégier mes prétentions sur le champ à l'époque, au moment où j'y étais, et sans faire du champ des cultural studies un objet de l'histoire, de telle sorte à le rendre singulier, cohérent ou fixé dans le passé. Pour éviter ces pièges, j'ai décidé d'explorer ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire du champ des cultural studies. Et je vais l'explorer en générant un sentiment affectif de cet élément plutôt que d'en narrer l'histoire. Un imaginaire du champ, c'est quelque chose que j'emprunte, un terme que j'emprunte à Robin Wigman, que je vous expliquerai dans quelques instants. Afin de faire ceci, je vais vous offrir des lectures de trois pratiques différentes, une vidéo, une installation vidéo, un portrait dans une exposition et une performance solo live. Chacune de celles-ci, je crois, fait quelque chose esthétiquement qui nous montre comment on fait des cultural studies et comment ça pourrait continuer à générer des choses. Alors, je vais donc me concentrer d'abord sur la pièce de John Acomfra, l'installation The Unfinished Conversation, la conversation non finie, comme une immersion esthétique dans l'imaginaire du champ des cultural studies. Ensuite, le portrait de 2009 par Marcus Harvey, Maggie, où, comme un fantasme genré de revanche, pour ceux qui étaient opposés au Thatcherisme des années 80, qui délimite ce champ imaginaire. Et puis enfin, de Peggy Phelan, Must, l'histoire intérieure de 2007, qui sera lue comme une incarnation des affects et des temporalités que les queers, qui rend queer certains des répertoires familiers et des registres de l'imaginaire du champ des cultural studies. Dans ma discussion, dans mon analyse de ces pièces, je voudrais apporter un sentiment de cet imaginaire du champ et des moments de sa conversation, de ses conversations avec le féminisme et plus récemment avec la théorie queer. Alors d'abord, les conversations non finies, non terminées. This is perfect. Thank you. Thank you so much.
Maybe the English people are finding me slightly slow.
You can do it even a little bit faster if you want. I'll be okay. I don't want you to end up, okay.
I'll speed up. The unfinished conversation.
La conversation non finie est le titre d'une installation avec trois écrans, donc sur comment Stuart Hall est devenu une catégorie qui pouvait devenir. Donc, ce n'est pas simplement le travail de Stuart Hall, mais c'est aussi sur ce que le rédacteur appelle la catégorie Stuart Hall, qui permet de comprendre un peu autre chose. Donc, c'est dirigé par John Acomfra, qui a utilisé cette phrase pour conceptualiser l'identité, pas comme une possession individuelle, mais comme le point instable où les histoires non dites et impossibles à dire de la subjectivité peuvent rencontrer les narrations de l'histoire. Voici un court extrait de cette installation à trois écrans. Et je remercie Smoking Dogs Films. Je vais vous montrer un clip. Et je vais traduire ce qui est dit à l'écran pendant que ça passe. Je voulais commencer avec cette installation pour trois raisons. D'abord parce que les cultural studies, leur intérêt pour moi, c'est que son ambition a tenté de maintenir ensemble deux modèles de culture incommensurables dans un même cadre de façon simultanée. La culture comme située dans les racines et la pouvoir, les relations de pouvoir de l'histoire et de la géographie spécifique, et en même temps, la culture comme étant toujours en train d'échapper à nos descriptions analytiques à cause de ces formations dynamiques et constitutives. The Unfinished Conversation retourne cette conceptualisation de la culture, ou ces deux conceptions, en une expérience esthétique incroyable pour le visiteur. Comme je l'ai dit ailleurs, l'attention du spectateur va entre les trois écrans comme des images retravaillées des archives de Le Hall, des images des albums de famille avec la poésie, la musique, de films populaires récents ou pas. Le fait de présenter ces différentes échelles simultanément, de représentation historique et géopolitique, permet de rendre impossible, le fait de se limiter à une histoire singulière, unique, ou d'isoler une seule situation, un seul lieu. Ce qui se passait dans In the Colony est inextricable de ce qui se passait en Grande-Bretagne dans les années 50 et 60. L'image de Londres par elle-même, comme capitale dans le cinéma britannique, fait partie d'un cadre plus grave de la postcolonialité et de la migration à ce temps. Les associations qui évanescente de ce mélange poétique nous laisse avec une espèce de surcharge sensuelle et affective. Nos corps semblent avoir un sentiment de ce qui peut toujours rester en excès d'un portrait biographique ou historique. Ensuite, cette pièce, donc The Unfinished Conversation, est une matérialisation artistique de ce qu'on pourrait appeler la mondanité, worldliness, la mondanité des cultural studies, qui nous a amené, beaucoup d'entre nous, dans ce champ, pour commencer. Dick Hebdige revient sur le concept de mondanité chez Stuart Hall, comme le dit Charlotte Branson. Sa sauvagerie, son engagement avec le monde extérieur dans lequel on pense, son implication dans ce qui est en dehors, hors de, du champ académique, son manque de pureté théorique ou disciplinaire. Les cultural studies sont donc une sorte de processus non fini de formation de la connaissance, quelque chose qui est ouvert à la contestation, à la révision. Comme le dit Branson, si l'abstraction est nécessaire afin de penser au-delà du particulier, ce qui se jouait au CCCS se fit toujours de revenir au particulier, le mondain, ce qui était dans le monde, pour voir si la pensée qui avait été achevée était adéquate. Cette mondanité requiert une pratique méthodologique qui est ancrée mais jamais réductible à des contextualisations multiples et nécessairement incomplètes. En allant de haut en bas de cette manière, c'est quelque chose que le CCCS et ses écrits qui rendirent célèbre le CCCS. Comme la mondanité, toujours entre guillemets, des cultural studies, ce mélange d'échelles esthétiques dans la pièce que je vous ai montrée crée des connexions entre des temps situés et des cercles d'influence concentriques qui donnent forme aux imaginaires culturels. Donc, dans ces différentes échelles locales et globales, à travers plusieurs cadrages, ce travail spontanément retrace les imitations culturelles et ses possibilités imbriquées. Ensuite, pour moi, ce travail, donc The Unfinished Conversation, nous donne l'imaginaire du champ du cultural studies et lui donne une forme esthétique. J'ai écrit ailleurs sur comment ça pourrait nous amener à penser l'histoire des cultural studies à travers le concept de l'imaginaire du champ. On pourrait dire, comme Robert Wigman, c'est la force affective qui constitue la vie psychique du champ. J'emprunte ça de son ouvrage Object Lessons, dans lequel il cherche à voir les imaginaires du champ de sujets motivés par un désir politique pour la justice sociale. Des sujets comme les Women's Studies et Queer Studies et les études de l'intersectionnalité. Elle analyse les protocoles académiques et les ambitions de transformation de projets intellectuels qui sont fondés dans ce qu'elle appelle des savoirs d'identité. Pour Wigman, les investissements identitaires dans ce genre de champ intensifient les attachements affectifs de telle sorte que être désabusé et l'échec font partie même de leur geste fondationnel, de leur fondation. Donc le savoir produit ne pourra pas offrir ce qu'il promettait. Et donc Wigman démontre comment ce genre de champ universitaire parfois produisent parfois même le contraire de leurs bonnes intentions. La frustration, les désillusions dans les histoires de ces sujets sont partie même des principes constitutifs qui les ont établis. Pour dire ça simplement, si ces champs avaient des psychés, voilà à quoi ils pourraient ressembler. Ou bien, ou si les cultural studies avaient une psyché, ou les cultural studies de Birmingham avaient une psyché, cette installation, the unfinished conversation, ça pourrait être quelque chose qui ressemble à sa psyché. Bien que les cultural studies de Birmingham ne furent pas fondées sur une catégorie identitaire particulière, ou même l'intersection de plusieurs identités, dès le début, elle était enracinée dans les arguments marxistes et post-marxistes sur les cultures de classe. Et elle est devenue de plus en plus politisée, dont l'imaginaire du champ fut chargé avec les surinvestissements et les désillusions de nombreux chercheurs et nombreux projets de justice sociale, dont ceux mentionnés par Wigman plus tôt. Dans les années 80, les catégories identitaires ont donné lieu à un certain nombre de sous-groupes du Birmingham Center, par exemple Women's Studies, Race and Politics, Race et Politique, et c'est autour de ces sous-groupes que des publications importantes furent publiées. L'étude de la culture contemporaine inclut la race, la classe, l'ethnicité, le genre, mais on ne pouvait jamais réduire tout ça à ces catégories. Ça m'amène à la seconde section de ma présentation sur les interventions féministes dans l'imaginaire du champ des cultural studies. Mais avant de vous parler de ma lecture de Maggie, le portrait de Margaret Thatcher par Marcus Harvey en 2009, comme faisant partie de son show White Riot au White Cube à Londres, je veux dire quelque chose sur la place, le rôle de ces débats sur le thatcherisme, dans les conversations non finies entre les cultural studies et le féminisme, qui m'ont intéressé dans ce que je vais vous proposer dans cette lecture du portrait. Les groupes féministes auxquels je participais dans les années 80 étaient motivés à la fois par une identification à et un désir de transformer l'imaginaire du champ des cultural studies et sa place dans les paysages contemporains et politique. En mêlant des éléments des épistémologies incompatibles que j'ai mentionnées plus haut, je vais vous le montrer, la culture comme située dans des relations de pouvoir profondément enracinées d'histoires spécifiques et de géographies spécifiques d'un côté, et de l'autre côté, la culture comme toujours échappant les descriptions analytiques finies grâce à sa dimension psychique, constitutive, dynamique, grâce aussi aux formations sociales. Donc les groupes féministes cherchaient à analyser la catégorie de femmes sans perdre de vue le caractère matériel et historique des inégalités de genre. Influencé par le champ interdisciplinaire des Women's Studies dans les universités dans les années 80, dans le monde anglo-américain, mais aussi frustré parfois par le fait de ne pas s'interroger sur ces tendances empiriques, les féministes de Birmingham ont cherché à ouvrir l'imaginaire des cultural studies à des agendas plus féministes. C'est assez évident dans le travail sur Thatcher et le thatcherisme, dans la collection Off Center que j'ai co-dirigée en 1990. C'est l'une des pires couvertures de bouquins qu'on puisse imaginer, hein. Je suis désolé pour ça. Je pourrais vous en dire plus tout à l'heure, mais oui, bon, elle est vraiment grotesque, je suis désolé. Notre projet défiait le fait que le marxisme ne s'intéressait pas aux questions de genre, mais insistait aussi sur le fait de refuser toute résolution satisfaisante. Elle a fait un petit lapsus que je ne peux pas traduire. Désolé, je ne peux pas traduire la blague. Bon. Bref. Elle a refusé donc à la résolution. Quoi. Donc, elle a pas pu trouver donc, de résolution satisfaisante à ces cadrages épistémologiques, ni des modèles de culture plus empiriques et intangibles. On cherchait à produire des cultural studies féministes qui s'adressaient aux sphères domestiques, les sphères de reproduction et les sphères de production. Et ça étendait les analyses structurelles et institutionnelles dans la compréhension de relations de pouvoir, du désir, la sexualité, l'incarnation, l'investissement émotionnel. Juste pour revenir, je vais vous montrer une photo personnelle parce que Maxime m'en parlait hier soir. Il me parlait de son souci. Il avait peur que l'histoire des cultural studies dans ses archives n'offre pas d'histoire sur la question des lesbiennes, des gays, etc. dans ces archives. Donc moi, j'étais très impliqué dans la section 28 quand j'étais en thèse à l'époque. Je faisais plus du travail politique en fait de terrain pendant la première année de thèse. Et c'était une loi de Thatcher qui était introduite pour prohiber tout argent, tout financement de gouvernement qui promouvait la normalité de l'homosexualité. Donc tout programme de gouvernement qui finançait les programmes qui soutenaient finalement la normalisation de l'homosexualité. Donc voilà ma contribution, promouvoir la normalité, la section 28, la régulation de la sexualité. Ce qu'on verra pas dans le bouquin, c'est cette photo que je vous montre. Et moi je suis en haut à gauche là. Brummies, c'est pour les gens qui viennent de Birmingham. Donc, gens de Birmingham disent « Restez gays voilà. ». C'est ce que dit cette photo. Les Brummies disent « Restez gays ». Voilà, ça, c'était notre grande action d'éclat. Et donc, ça, c'était avant le tournant queer. Donc, on utilisait un langage gay, pas queer. Donc, en relisant le bouquin récemment, j'étais intéressé par le fait qu'il combinait des cadrages théoriques inhabituels. En regardant notamment la section sur le marxisme, le féminisme et le thatcherisme, ce mélange de méthodologies semblait un peu cavalier. Hein. Et en même temps un peu naïf parfois. Hein. Bon. Une lecture plus généreuse pourrait trouver que la mondanité des cultural studies pourrait être trouvée dans cette combinaison un peu anarchique de méthodes. Alors, seconde partie, la précarité de Maggie. Donc, dans cette seconde partie de ma présentation, je veux faire une courte lecture du portrait de 2009 par Marcus Harvey, Maggie, afin d'explorer les épistémologies incommensurables de l'imaginaire du champ des cultural studies que le féminisme avait cherché à mobiliser, mais aussi à transformer. Je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit juste après avoir vu l'exposition White Riot de Harvey la première fois.
Viewed from the entrance, Maggie at first appeared to be a large-scale black and white reproduction of a close-up photograph of Thatcher.
Donc il y avait un gros portrait de Thatcher comme premier ministre dès l'entrée de l'exposition. Mais en m'approchant, son apparence photographique fragmentée dans une composé de milliers d'objets, 15 000 objets en plâtre, pour être précis. On s'approche et on voit un mélange bizarre de végétation, d'argent, de missiles, de phallus et de masques de cartoon, etc., de Tony Blair et de Thatcher elle-même. La prépondérance phallique dans cet assemblage, renvoie à son cabinet intégralement masculin et semble se moquer de Thatcher qui prétendait représenter la décence, les valeurs familiales traditionnelles et la moralité. Et voilà un de ces cabinets fait d'hommes uniquement. Comme la célèbre femme fatale, Maggie a beaucoup plus de duplicité. Elle a l'air de quelque chose, mais en fait finit par être quelque chose d'autre. Donc ce portrait fait de mutation, de mutabilité, défait finalement le regard de Thatcher. Mais les pixels d'une numérique, les milliers d'unités qui font le tout, pourraient sembler apparaître et disparaître à tout moment. Plus on s'approche, plus on recule finalement du portrait. Donc dissoudre Maggie dans des fragments reconstitue son image à travers à la fois des effets et les affects de sa politique. Je me suis trouvé chercher la meilleure position pour mieux avoir le plus de contrôle sur ce que je voyais. L'endroit où je pourrais être celle qui décide si elle vit ou elle meurt. Si elle est une image dans sa totalité, ou si elle est fragmentée en une collection excentrique d'objets. En renversant les relations de pouvoir du passé, j'avais maintenant la capacité d'agir, d'amener sa présence dans le présent. Je peux rendre l'insécurité de Maggie, je peux la remettre dans son ontologie. Donc Maggie, Thatcher elle-même, elle est elle-même rendue précaire. Et donc, comme pièce centrale de cette expo, The White Riot, Maggie est à la tête de nombreux autres symboles modifiés de la mythologie de la Bretagne. Maggie est accompagnée d'autres œuvres où la prouesse militaire est transformée, où la grandeur du sport est défaite et l'autorité nationale est complètement détruite. C'est par exemple Winston Churchill qui est complètement qui est désacralisé là. Ouais, voilà une sculpture de ça. Donc dans ce contexte, Maggie incarne la désintégration de la grande botanité, si vous voulez, et représente une condensation d'un imaginaire cultural studies vu à travers l'angle d'une politique féministe. Le fantasme national qui avait proposé le projet thatcherien était très genré. Hein. Il défiait l'absence de genre et de sexualité d'une analyse à partir d'une analyse marxiste et post-marxiste. Notamment le travail de Stuart Hall. En revenant à des valeurs victoriennes pour justifier les brutalités qui avaient envahi l'espace public au nom de la moralité familiale, voici la figure qui avait le plus transformé la sphère publique britannique, dans ma vie en tout cas, et contre qui les féministes avaient dirigé leur campagne sur les questions de paix, d'abortion, les lois d'immigration, des droits gays et lesbiens. Dans le Maggie de Marcus Garvey, on trouve Thatcher transformé en un assemblage. Il y a une revanche douce, finalement, dans le fait d'exposer l'héritage social et de rendre littéral tout le mal qu'elle avait fait à la société et par notre propre mouvement déambulation dans la galerie. En rendant précaire la présence de Maggie, on peut bien clairement, précisément dire les responsabilités des politiques néolibérales pour ce que Laurent Berlin appelle notre état de précarité actuel. Ce portrait offre à la fois et enlève les plaisirs d'exposer les effets violents des politiques de Thatcher et rend transparent et incontestable les éléments détaillés, matériels et fantasmatiques qui constituent cette exposition. Je veux utiliser ce désir de transparence et de lisibilité comme un lien vers la troisième partie de ma présentation, qui offre une lecture d'une pratique artistique qui peut être lue, je crois, comme incarnant des éléments importants de l'imaginaire des cultural studies en relation à la politique queer. Ici, je veux introduire la théorie queer comme un acteur génératif dans l'imaginaire du champ, comme un acteur qui génère quelque chose, et donc en m'intéressant à comment le corps, la subjectivité, les narrations personnelles sont amenées plus au centre dans le cadre des cultural studies. Et donc la théorie queer a aussi rendu les questions d'affect et temporalité au centre des préoccupations des cultural studies. Troisième partie, l'incarnation queer du temps dans Anatomy Lesson de Peggy Shaw, la leçon d'anatomie. No, it's fine. Okay. Thank you. Thanks a lot.
The people from England still away? In this final section of my
talk, dernière section, donc, I want to shift from mutable je vais passer de la magie qui se transforme à la lecture d'un corps vivant sur scène, en continuant à penser le désir de transparence et de lisibilité dans un monde qui est caractérisé par la précarité et des échelles incommensurables. Must, the inside story, donc must, l'histoire intérieure, est donc une performance collaborative de 2007 entre Claude Ensemble, qui a fait la musique, et Peggy Shaw, des Split Bridges. Certains d'entre vous connaissent ce groupe, enfin une partie du groupe. Mais... décrit par ses créateurs comme un regard poétique sur à quoi ça ressemble d'avoir un corps, quel sentiment ça donne, Must est fait de 7 monologues courts qui utilisent la première personne, mais défont nos attentes de confession autobiographique. Faisant de l'espace du théâtre un théâtre anatomique, un cabinet d'anatomie, Shaw rend son propre histoire médicale à travers des sagas familiales, des histoires sexuelles, le cinéma de Hollywood, des mémoires, des souvenirs poétiques, et aussi des images macroscopiques sur l'intérieur du corps. La musique live par l'ensemble Claude et des images projetées d'une librairie médicale de Londres et des films d'animation du début du siècle accompagnent la leçon anatomique de Shaw. Alors, je vais vous montrer les slides qui sont projetés donc dans une échelle 1-1 derrière la performance. Je vais vous montrer un extrait de ce film de la performance. Donc, ce n'est pas un film, hein, c'est moi qui filme une performance live. Hein, donc, il faut le prendre comme tel.
Hey, you want to see my body?
Tu veux voir mon corps? Tu veux voir mon corps?
I am 65 years old and I'm lucky. I got both my breasts still safe inside my suit. My upper arms are big because my dad said life is hard and you got to lift your weight every day before you go to school. My left wing is a little higher than my right one. You probably notice that right away. I've been told that my clavicles are the sexiest part of my body. There's a photograph I'm recording on a cell phone somewhere. I can't lie down to be examined because I feel like I'm
going
to die. I'm scared to expose the front of my chest without my arms covered. I feel foolish in your room, like in a lady's room. Like a bull in a china shop.
Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Can you smell the years of sun on my skin?
Tu peux sentir les années de soleil sur Ou est-ce que tu prends trop de temps pour croire que je suis Marilyn Monroe? Quand on a deux choix, il n'y a pas de surprise. Je fais toujours ça quand on a deux choix. C'est moi qui me trompe toujours dans le clé, si j'en ai deux, une porte. C'est pour ça que je me Si on prend toujours par l'homme, c'est à cause de mon cou. Ma pomme d'Adam, c'est ce que je ma pomme d'Adam avec en plus. Ça vous confond. Je dois avouer que, évidemment, ça vous défie. J'ai eu 13 corps dans ma vie. Ça, c'est un seul de mes corps. Cette question, tu veux voir mon corps dans une version un peu... Je l'ai un peu transformé là, dans la mélange, j'ai traduit, il dit pas « Est-ce que tu aimerais voir mon corps ?» C'est « Tu veux voir mon corps ?» Enfin bref. Donc cette question dit la curiosité masculine et féminine qui caractérise l'histoire à la fois de la science et du cinéma. Dans Must, la curiosité est combinée avec la monstration et resituée dans la promesse énigmatique de Peggy Shaw et de son côté butch, un peu noir. Dans les années 40 et 50, le cinéma noir américain, le protagoniste mâle, était une figure du mauvais côté du temps. Ses narrations rétrospectives révélaient d'habitude qu'on analysait les choses trop tard. Ce que tous les protagonistes de films noirs, ce dont ils avaient besoin, c'était plus de savoir bien plus tôt en jeu. Mais ils sont trop souvent distraits par les charmes de la femme fatale, diabolique. Pensez à Walter Neff dans Double Indemnity. Je l'ai tué pour l'argent et une femme. J'ai pas eu l'argent et j'ai pas eu la femme. Shaw emploie donc une connaissance un peu rétrospective et noire pour faire de son autobiographie le refus de l'hétéronormativité, mais séduisante aussi. Je passe trop de temps à regarder trop de femmes magnifiques, comme elle le dit plus tard dans le spectacle. Son commentaire un peu puissant comme ça, combiné avec un mode anticipé de dialogue avec le public sur comment il pourrait être en train de lire son corps sur la scène. Voilà. Est-ce que vous pouvez sentir tout ce soleil sur ma peau? Ou est-ce que vous êtes trop occupé à me prendre pour Marilyn Monroe? Enfin, vous voyez, il y a un dialogue avec le public. Donc entre la rétrospection et l'anticipation pour intensifier sa présence affective, Shaw devient le maître du temps, jouant avec ses échelles, jouant avec les transitions pour dire son histoire interne.
A couple of hundred million years ago, before you were born, my body was joined together to form one land mass. Slowly, my 12 plates started moving away from each other. Can you hear all my bones fitting together as I keep living?
Est-ce que vous pouvez sentir tous mes os qui reviennent ensemble tandis que je continue à vivre? Donc, elle renverse l'altération du corps butch et performe une connaissance intime des codes avec lesquels elle défait sa propre histoire. Tandis que nous-mêmes, on investit ses propres confessions. Donc, cette pastiche de la révélation masculine suggère une intériorité qui pourrait être indisponible ici, comme c'était le cas dans le film noir classique. Must complique tout ça en nous amenant dans une narration plus haute sur la vulnérabilité du corps queer, ses désirs, ses maux, sa normalité, ses traitements, ses interventions chirurgicales, son âge, etc. Anticiper les lectures qui seront faites de son corps par le public, Shaw et son histoire interne fait la cartographie de sa vulnérabilité et performe une maîtrise du temps apparente en articulant poétiquement le futur que d'autres auraient peut-être pensé qu'elle devrait vivre. Cet paradoxe de la vulnérabilité queer pourrait être résumé comme le fait d'avoir déjà été lu comme enfin, le futur presque parfait du queer ayant toujours déjà été lu, si vous voulez. On pourrait répéter tout ça de manière suivante. Ma vulnérabilité dépend de ta capacité de me faire mal et vice-versa. Mais ma queerness défie cette puissance que tu as, puisqu'elle l'a déjà vue, elle a déjà incorporé, elle a déjà incorporé ton autodérision dans ma lecture, si tu veux. Par conséquent, tu me lis, je montre que j'ai lu ta lecture en me la réappropriant, et en me lisant moi-même, en refusant ta lecture, ce que je suis, je sais que je serai en avance, seulement pour découvrir que j'ai déjà été lu par toi, si et quand j'arrive dans ton futur. Ça, c'est une histoire qui concerne le temps. Venir des ombres jusque dans la lumière. J'ai toujours croyé que le temps, il avait commencé quand j'étais né et qu'il finirait quand je mourrais. Pas vous ? Ça a commencé en noir et blanc et maintenant ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Donc, ces actes de lire et d'être lu font partie de la queerness de la performance. En termes de la butch lesbienne, comme un héros noir qui performe l'asynchronicité de la présence temporelle de la queer ou du queer. Pour citer Lee Edelman, on ne fait jamais un avec notre queerness. Ni son temps, ni son sujet ne font partie de nous, ne sont à nous. Plutôt que ça, il dit le refus du temps par la queerité, si vous voulez, de se soumettre à une logique temporelle. Donc Mast rend ce refus de la téléologie, elle en fait une matière à une pensée queer. L'incarnation de ce refus du temps queer, par les queers, ce refus de la logique temporelle, ça dépend de l'imbrication de la performance live avec, enfin, de l'artifice de l'image. Must incarne une tension entre la physicalité du corps, les traces matérielles de son histoire, jusque ses blessures, les os cassés, d'un côté, hein, et de l'autre côté, les fantasmes projetés par les publics qui souhaitent une histoire, donc projeter une histoire qui veulent connaître sur l'autre. En tant que tel, ça revient, je crois que ça revient, ça nous fait revenir à l'imaginaire du champ des cultural studies, un imaginaire qui a été reconfiguré à la fois par le féminisme et la théorie queer. Je finis donc avec ma lecture de la performance de chant, je me reconnecte au plaisir esthétique de The Unfinished Conversation comme mise en scène de l'imaginaire du chant des cultural studies avec lequel j'avais commencé cet exposé. Donc j'arrive vers ma conclusion, je veux vous laisser avec le projet de lire le terrain mouvant de cet imaginaire du chant. J'espère que ce que je vous ai proposé, plutôt que résolu, certaines de ces conversations ont fini, de cette sorte à générer quelque chose d'une perte du sens un peu bordélique, sachant que ce sentiment d'incomplétude est inévitable. Donc même si unfinished business, donc cette incomplétude est quelque chose vers lequel je suis arrivé, je veux quand même considérer des connexions, des liens entre ce point et là où j'ai commencé. J'ai essayé d'éviter de transformer ces grosses catégories telles que cultural studies et féminisme en des objets cohérents, transparents, épistémologiques, etc., afin de mettre en cause leurs relations et leurs histoires, d'en débattre en tout cas. Plutôt, j'ai suggéré qu'on prenne l'installation de John Acomfra, The Unfinished Conversation, comme la mise en scène de l'imaginaire du champ des cultural studies. Un chant dont la mondanité bordélique excède la rétention dans un cadre simple ou un simple paysage sonore. Et donc un chant organisé autour de plein d'échelles différentes, d'échelles politiques, de forces politiques, géopolitiques, personnelles. Donc avec ces deux versions de la culture en tension, hein, ce travail génère un spectateur affectif qui est lié à la poétique d'incommensurabilité non résolvable, sans solution. Reconfigurer cet imaginaire du champ des cultural studies pendant les années 80 a eu lieu notamment dans le travail sur le Thatcherisme. Ma lecture du portrait Maggie de Marcus Harvey, avec tous les empires altérés de l'empire perdu de la Grande-Bretagne dans White Riot, tout ça se concentrait sur les plaisirs en se baladant un tout petit peu dans la galerie, de revenir à Maggie, donc rendre à Maggie la précarité que c'est politique, ces choix politiques, ces décisions politiques avaient inflé. Enfin, la manière dont ils avaient inflé. Enfin, leur inflexion, le rôle qu'ils avaient joué dans l'histoire politique et sociale britannique. Et donc, mon rapport à ce champ pourrait être réécrit dans une rencontre avec le corps queer dans le Must de Peggy Shaw. Donc, contre l'ensemble de ces slides d'images microscopiques du corps humain, tout ça, ça joue avec la temporalité queer, en anticipant les fantasmes du public à propos de l'histoire interne de son corps. Donc, ces changements d'échelle dans son histoire nous confrontent à nos propres désirs, rendent commensurable ce qui relève de l'expérience, l'intangible, l'empirique et le fantasmatique. Donc, ma conclusion, je conclue ainsi avec les répétitions. Je n'ai pas cherché à raconter l'histoire des cultural studies en relation au féminisme ou à la théorie queer. Plutôt, j'ai essayé de l'amener, de la porter dans la pièce, de vous offrir un sentiment affectif des cultural studies comme un espace imaginaire contesté, reconfiguré à travers des interventions féministes et queer. Ce que j'essaie de vous proposer ici, c'est quelque chose de pas réductible à un tout petit objet bien organisé de savoir, mais quelque chose de tangible seulement à travers ses contours et ses répétitions affectives, à travers sa propre connaissance de ce qui peut, de ce qui peut pas être parfaitement rendu tangible et transparent. Merci.
Thank you, Jackie, for reflecting upon the way feminism and queer knowledge and experiences have shaped and transformed the field imaginary of cultural studies. And also thank you for showing us three art pieces that enact, embody, and illustrate the critical approach of colonialism, imperialism, and heteronormativity. I think
Donc, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment un vrai don pour le public comme conclusion à cet ensemble de colloques. Et merci beaucoup pour tout ça, cette réflexion sur le film de queer. J'ai préparé des questions au cas où personne n'aurait des questions tout de suite, si les gens sont un peu timides.
Des questions pour Jackie Stacy, au cas où vous n'auriez pas de questions à lui poser. L'idéal étant évidemment que le public se saisisse des 20 minutes qui nous restent pour échanger avec notre conférencière, donc je vous invite à lui poser des questions.
Tu vas traduire. Tu t'occupes de traduire les questions. Ou tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y a des questions en français?
Oh, oui.
Comme tu veux.
I just asked the audience if they had questions for Jackie Stacy. Non, mais... they have prepared some questions for her, but... the audience now has 20 minutes to interact with our keynote speaker for the end of this conference, so take the opportunity.
Were you trying to say that in French just now?
Yes.
You said it twice in English.
Ah, je l'ai...
Non, j'avais déjà traduit. Je te disais, est-ce que tu veux que moi je traduise en français, en anglais, les questions qui seraient posées? Mais ouais.
So,
like you were my echo.
Okay. C'est le moment où vous pouvez vous saisir de... qui nous reste pour interagir avec notre conférencière. C'est le moment de lever le doigt.
Maybe we could bring the lights up, the house lights up in the audience.
En fait, on ne voit pas, ce qui est un peu perturbant. Donc, si on peut avoir la lumière dans la salle, voilà. Okay, so I'm going to ask you a question.
Je vais vous poser une question, moi. D'abord, l'anecdote sur la couverture du bouquin que vous avez mentionné en introduction. Je veux connaître l'anecdote sur cette couverture, parce que vous avez une histoire sur cette couverture. Alors, est-ce qu'on peut avoir les PowerPoints, s'il vous plaît ?
Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint ? Je voulais qu'elle nous raconte l'anecdote derrière la couverture du livre, de ce livre historique, de ce second livre historique des féministes du centre de Birmingham.
Alors vous voyez, donc c'est vraiment une couverture assez minable. Hein. La première proposition qu'on avait eue, le book s'appelle Off Center, et donc on avait une femme devant une cible avec une pomme sur la tête, comme si quelqu'un était sur le point de tirer une flèche. Hein. Et qu'on a envoyé en disant non, c'est off-center, pas on-target, donc pas vraiment. On fait mouche, c'est plutôt off-center, donc décentré. Et donc ils ne pouvaient pas nous envoyer une autre histoire. Donc on a passé nous-mêmes 10 ou 15 minutes. Sarah Franklin a fait un petit dessin avec des icônes qui étaient en train de circuler comme ça, sans centre. Et puis quand on a vu la couverture, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Et il venait d'utiliser en fait simplement son dessin tout pourri. Donc voilà, la couverture fut faite par Sarah Franklin, improvisant comme ça, et ça a été utilisé finalement par la maison d'édition.
Alors il y a une question, on y va.
Je ne connais pas grand-chose sur l'histoire de la Grande-Bretagne, mais comment pensez-vous que... Pourquoi Thatcher a renforcé tellement les théories de genre tout en étant une femme? Je voulais juste savoir comment elle a pu participer à la transformation du champ des études féministes. C'était une femme, donc en tant que femme, comme une des premières femmes qui a eu le pouvoir en Grande-Bretagne, elle aurait pu transcender cette question du genre. Pourquoi pensez-vous que ça a été encore plus fort pour permettre l'éclosion des gender studies, des feminist studies? Bon, il y a beaucoup de réponses à cette question. Hein. Elles sont assez compliquées, je dirais. On en a parlé un tout petit peu dans ce bouquin Off Center. Je crois que ça démontre le problème de la catégorie femme. Elle a une certaine conscience politique en elle, et elle-même n'était pas une féministe. Loin de ça. Elle ne s'associait pas à la question du genre, ça n'avait aucun rapport dans sa carrière, ça n'avait aucune influence sur sa carrière, elle croyait vraiment que des divisions genrées traditionnelles, les valeurs familiales traditionnelles, et elle mobilisait les valeurs très traditionnelles et victoriennes de sa famille pour pathologiser les autres groupes dans la société britannique, qui, pas simplement les lesbiennes et les gays, mais aussi les immigrés, et notamment les femmes seules, les femmes au foyer, enfin, qui étaient seules, sans mari, et comme le dit Beverly, et toutes sortes d'activistes et de militants de gauche, et les syndicats. Donc elle n'avait aucun intérêt dans la politique féministe. Les féministes, pour elle, ça faisait partie de ses cibles. Hein. Et donc elle était vraiment en conflit direct avec les Women's Studies. Et elle cherchait à mobiliser contre les Women's Studies, par exemple en parlant, des nouveaux opprimés. Les nouveaux opprimés, c'était les pères, par exemple, auxquels on ne devait pas de droits pour ce qui est des enfants. Les néo-réprimés, c'était aussi le fœtus, comme la catégorie opprimée par celle qui voulait avorter. Vous voyez, donc on parlait beaucoup de ça. Mais il y a quelque chose, je crois, sur lequel on a beaucoup écrit, sur la haine par Thatcher. Sa grande haine dont j'en parlais sur ce portrait de Maggie, dont j'ai refait l'expérience en voyant le portrait, cette haine de Thatcher Et ça a à voir avec notre relation à la féminité et le pouvoir amené ensemble dans une figure, dans un forum public. Et tout ça, ça amène un certain agenda à l'antipathie dans notre opposition politique à une figure comme Thatcher. Et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation fascinante. J'aimerais bien revenir à ce que vous avez dit au début de votre présentation à propos du CCCS qui était engageant, engager la recherche académique, l'activisme social et la création. Donc j'aimerais savoir comment vous étiez engagé, vous, en allant au-delà de ces différences et distinctions entre ces différents espaces, en tant qu'étudiante, mais aussi travaillant dans la politique et en travaillant aussi pour le journal Screen. Merci. C'est une grosse question. Je vais vous donner quelques petits exemples, c'est tout, pour répondre. Alors, avant de parler de moi, je devrais dire que Jonna Compron, la directrice de celle qui a édité Unfinished Conversation, c'est aussi du numéro de Screen sur Stuart Hall qu'on peut acheter en tant que DVD. Eh bien, Joanna Confer, elle était en dialogue avec Stuart Hall pendant des années sur ces questions. Donc, en tant que réalisatrice, elle dialoguait beaucoup avec le travail qui avait lieu au centre. Au CCCS. Et Stuart Hall avait beaucoup de dialogue avec Isaac Julian, un réalisateur que vous connaissez peut-être. Alors, il y avait une façon, en tout cas, Stuart Hall avait quitté le centre quand je suis arrivé, mais il y avait une manière de rendre possible ce dialogue entre travail politique, intellectuel et créatif, artistique, hein, toute cette forme de travail, ça faisait partie de l'agenda du centre. Hein. Et donc, de plein de manières différentes par ailleurs. Un exemple de comment moi j'essaie de continuer à faire ça, malgré le fait de ne plus être dans ce contexte. Tous les étés, je dirigeais quelque chose qui s'appelait les Summer School sur la sexualité. Ça a été rappelé le Sexuality Camp, le camp sexualité, ce qui, bon, était un tout petit peu... Ça a l'air beaucoup plus sympa, en tout cas. Et donc, c'était une semaine d'ateliers, de lectures pour des postdoctorants ou des doctorants qui travaillent sur la sexualité. C'est très informé par la théorie queer, par le féminisme, et il y a un intérêt dans l'analyse culturelle, bien sûr. Et ça commençait en conjonction avec un festival d'art qui s'appelait Queer Up North, Queer dans le Nord. C'était à Manchester, en mai, et qui amenait des débats politiques et expérimentaux et plus mainstream, pour dire ainsi, des choses ainsi. Plein de performances différentes de ce genre à Manchester. Ça n'a plus été financé à partir de 2010, mais on a commencé donc ces universités d'été pour être en dialogue avec les gens dans ce festival et pour permettre aux doctorants et aux postdoctorants qui travaillent sur ces questions de sexualité de dialoguer avec les gens qui pratiquaient ce genre de travaux, ceux qui avaient intérêt dans ce genre de thème en dehors du champ académique. Et j'ai continué à faire ces universités d'été en mai, dans des collaborations à Manchester par exemple, dans le Young People's Theatre à Manchester aussi, et dans une galerie d'art à Manchester aussi. Donc ça, cette semaine de discussion intensive, c'est à la fois quelque chose qui nous engage avec un sujet. On a eu plein de sujets, l'amour et ses autres. On a eu plein de sujets différents. Et à chaque fois, on invite des réalisateurs ou des performeurs pour venir et être en dialogue avec les étudiants sur les questions de sexualité, de genre, etc. Donc ça, c'est juste un exemple de comment moi, j'ai réussi à combiner, à maintenir ce dialogue vivant. Cet espace de malaise, le maintenir en termes de politique féministe et de militantisme, ça m'intéresse. Et je voulais savoir, sur ce titre « off-center »,« décentré », comment est-ce qu'on arrive à ce décentrement, à cette question de l'incommensurabilité? Est-ce qu'on cherche à être décentré ou est-ce qu'être décentré, c'est une source pour d'autres formes d'interprétation? Je ne sais pas si ça fait du sens, si vous comprenez ce que je veux dire, mais donc cette idée d'être décentré, non, comme le titre de ton bouquin là, voilà, je vous arrête. Il y a une sorte de question, il y a une question là-dedans, mais bon. Bah vraiment, c'est très intéressant comme question, parce que une des choses à laquelle je réfléchis depuis que j'ai écrit ça, moi j'étais curieux d'être invité à cette conférence sur cultural studies et critique marxiste, à ce moment-ci précisément, je me demandais, c'était quoi l'agenda, c'était quoi la situation en France, et à qui je parlais en termes d'ambition politique et intellectuelle. Je ne savais pas trop. Alors, j'en ai appris un peu en arrivant ici, et il semble, à mes yeux, que être décentré institutionnellement, c'est très important. Et peut-être que c'est ce que certains d'entre vous cherchent aussi à faire, c'est de trouver un espace au sein du monde académique et au-delà du monde académique, lié à des choses en dehors du monde académique, où vous n'êtes pas défini par les valeurs dominantes de l'institution elle-même, voyez. Et j'imagine que off-center, décentré, ont continué le travail de féministes dans Women Take Issues, cet ouvrage, pour travailler d'influencer les agendas des cultural studies, intervenir dans ce champ imaginaire, dans cet imaginaire du champ, et le reconfigurer. Et on voulait continuer ce travail. Mais en regardant maintenant, bien sûr, le centre, comme on l'appelait, le centre était déjà décentré. Il est tellement décentré, quoi. Donc la plupart d'entre nous, ils sommes allés, c'est pour ça, on cherchait un peu de bordel, quoi. On cherchait la merde. On est rentré dans les problèmes, les troubles de l'institution. Je ne crois pas que j'aurais fait une thèse dans une université conventionnelle. J'ai fini par faire quelque chose de complètement différent. Donc, on était en train de se révolter contre certaines manières dont le thatcherisme nous dégoûtait dans des systèmes très conventionnels. Mais d'une autre façon, en regardant ça du dehors maintenant et en voyant l'histoire des cultural studies qui a été fermé après de nombreuses attaques pour le fermer, et nous on y résistait, ça a finalement été terminé de façon assez brutale et de façon très efficace d'ailleurs et très rapidement, mais il y a eu beaucoup de tentatives pour s'en débarrasser. C'était vraiment comme une épine dans le pied de l'institution. Alors maintenant, on dirait vraiment, ça ressemble vraiment à une sorte de privilège d'avoir pu être décentré du projet des cultural studies, qui lui-même était déjà décentré. Et maintenant, je crois que on disait ça tout à l'heure en mangeant, une grande part du plaisir et de l'énergie de se relier, de se lier à des luttes en dehors du monde universitaire, avec des réalisateurs qui travaillaient dans plein de champs différents. Pas mal de cette énergie a été investie de plutôt dans l'institution et dans la lutte institutionnelle dans nos universités, juste pour garder un espace pour le féminisme ou la théorie queer, ou enseigner le marxisme, et maintenir tout ça vivant, parce qu'il n'y a plus d'espace pour ça maintenant. Et je crois qu'on est vraiment mis sous pression maintenant, ici, peut-être aussi en France, je ne sais pas, de manière différente, pour abandonner cet espace. Donc, rester connecté, pour revenir à la question antérieure, pour rester connecté à l'activité politique, rester connecté aux artistes et aux réalisateurs de films, etc., et aux performances. C'est de plus en plus difficile pour nous, dans un contexte dans lequel l'université néolibérale vraiment aimerait qu'on passe le plus clair de notre temps à parler de nous, à justifier notre existence et nous évaluer critiquement les uns les autres. Et vraiment à perdre notre énergie avec beaucoup de bureaucratie, de paperasse, alors qu'on pourrait être en train de faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Donc je crois que c'est une très bonne question parce que si on regarde ça du dehors, vraiment, ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai une question. Je pense à l'intervention de Massi Raghunif, le fait qu'elle avait souligné qu'il y avait un manque d'espace et la géographie, des questions de race, de postcolonialité dans l'université française. Et je me demandais comment, à quoi ça ressemblait pour des universitaires au CCCS. C'est un centre qui est décentré. Les féministes soulèvent la question qu'on ne considère pas suffisamment les questions concernant les femmes. Même chose pour les queers, même chose pour les gens non blancs, non-white, les gens pas blancs. Et moi, je me demande si le fait que les universitaires blancs, non blancs, c'est pas une manière un peu paternaliste, même si elle est nécessaire pour créer de l'espace pour l'autre. Ou les féministes qui font de l'espace aussi pour les autres minorités, c'est un peu paternaliste, je dirais aussi. C'est chez moi et je vous invite là. Bon, ça peut pas paternaliste tout ça, quoi. Et donc l'autre c'est une minorité, mais en même temps il est un peu paternaliste vis-à-vis des autres minorités. Je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez de ça, cette question. Peut-être si Nassira est encore là. Bon, elle est partie. C'est pas mon expérience telle que je m'en souviens du centre ou des espaces de women's studies, la manière dont je m'en suis servi. Je ne crois pas qu'il y a eu une manière un peu paternaliste. Ces espaces ont été pris. Ils ont été conquis de haute lutte. Et ils ont eu une influence incroyable. Si on pense au travail de Paul Gilroy, qui vient des cultural studies, il est une figure clé dans la sociologie en Grande-Bretagne. Il y a une influence au-delà des disciplines et des barrières universitaires, disciplinaires, pardon. Si on pense au travail de nombreuses féministes, beaucoup d'influence au-delà des disciplines et frontières disciplinaires. Donc moi, je n'ai pas vu ça, cette relation, comme étant invité chez d'autres, n'être pas chez moi, dans une situation si polarisée. Évidemment, maintenant que je l'ai dit, c'est quand même assez choquant de considérer la faible part, la très faible part des universitaires non blancs. Hein. Donc il y a eu des figures, des voix très, très influentes, mais peut-être que maintenant, si on regarde à une plus grande échelle, le nombre de collègues noirs que j'ai à Manchester, c'est encore très très faible en effet. Ouais. Voilà. Merci. Ouais. Je voulais juste mentionner le nom de quelqu'un qui est rarement mentionné et qui était. C'est Valérie Amos. Elle est arrivée avec Grégor et moi-même. Elle a fait son MA. Donc Valérie Amos, qui est venue au centre en 1975. Elle a fait son master. Et puis après, elle est partie dans le monde. Elle a apporté toutes ces choses qu'elle a faites pendant son master. Elle a fait le cours de théorie du master, donc elle n'est pas engagée dans l'écriture. Mais maintenant, elle est revenue pour être le chef du search. Et donc, elle est... Donc, on avait Paul Gilroy, on avait Benson Carey, Harold. Donc, il y avait ce groupe immédiat de gens qui étaient comme engagés. Mais on ne pensait pas qu'on était décentrés. Ils ne pensaient pas que leur présence nouvelle là était décentrée. Ce n'était pas le cas. On ne pensait pas les choses ainsi. Autre anecdote personnelle, Stuart savait que Thatcher était une menace à l'ensemble du monde. Donc Stuart et moi, on revenait d'une conférence à Nottingham, et le vendredi matin, lorsqu'elle avait été élue, un samedi, pardon, il a dit, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. Donc il savait, avant toute autre personne, de la grande menace qu'elle représentait et tous les effets de ce qui serait créé par l'arrivée de Thatcher. Donc ça, c'était vraiment terrifiant.
On a un cocktail dans le hall qui nous attend et à 19h30, une table ronde. Mais peut-être qu'on peut prendre une dernière question.
Courte réponse.
Courte et dense.
S'il vous plaît, ouais. Bon, pas de réponse, pas de questions courtes. Donc, avant de sortir, je voulais vous rappeler de bien rendre les casques là où vous les avez pris, s'il vous plaît. Merci. Merci.